Vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce beau samedi pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors ma question ce jour, c'est est-ce que vous êtes des gens positifs? Est-ce que vous êtes des gens optimistes dans votre existence? Et pour vous poser cette question et pour vous comprendre comment quelque part on peut se fixer de nouveaux objectifs et être sûr de s'en sentir mieux dans sa tête, d'avoir plus de bien-être, nous allons parler de la méthode Coué. Et pour vous accompagner et pour en savoir plus sur ce sujet qui est un sujet passionnant, nous avons le grand spécialiste français de la méthode Coué, Luc Tessier-Dorfeuille. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Et pour m'accompagner, notre chroniqueuse historique, hypnothérapeute Irène Cazenave. Bonjour Irène.
Bonjour.
Vous savez que c'est une émission interactive, vous connaissez le numéro de la radio, Dynamique Radio. Vous pouvez nous appeler, poser toutes les questions que vous voulez à Luc Tessier-Dorfeuille et à nous deux aussi. Tout ce que vous avez voulu savoir, toujours sur la méthode Coué, sans jamais avoir osé le demander, c'est un petit côté à thème à la Woody Allen, vous pouvez le faire, nous sommes partis pendant toute l'émission avec vous. Luc, on va commencer par une présentation. On dirait que, voilà, comment vous présenteriez-vous, vous, aux auditeurs de Dynamique Radio?
Ouais, je vais te dire que depuis peu de temps, je suis devenu un homme respectable. Mais j'y suis pas pour grand-chose, ça c'est mes deux filles qui m'ont donné chacune un petit-fils. Alors voilà, j'ai envie de démarrer par ça, ça pose.
L'art d'être grand-père, comme disait Victor Hugo.
J'ai été un petit peu artiste, après avoir fait des maths et de la physique, ne sachant pas quoi faire. J'ai monté une compagnie de théâtre à Paris.
Qui s'appelait
la compagnie du Tambour Royal, qui est un théâtre qui a été repris, un vieux café-concert au passage Pivert. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré celui qui est devenu mon associé et qui a eu l'idée de monter un lieu de training et de coaching pour les comédiens professionnels.
Qui s'appelait ?
Le studio Pygmalion. Ça existe toujours. Hein. Ça fait plus de 30 ans que nous existons, 35 ans. Et j'ai adapté le travail que nous faisons avec les comédiens à ceux que j'appelle les acteurs de l'entreprise. Et donc, je fais des formations, du coaching et des conférences en entreprise.
Voilà. Et vous êtes aussi un conférencier professionnel. Et avant toute chose, chers amis auditeurs, aussi, je dirais, mais aussi pas avant toute chose, un immense spécialiste de la méthode Coué. Vous avez écrit un certain nombre de livres à ce sujet, n'est-ce pas? Notamment un que j'ai dans les mains, la méthode Coué, qui est sortie toujours chez Le Duc en poche, le sous-titre étant la maîtrise de soi pour l'autogestion consciente. Première question, Luc, vraiment un peu autobiographique comme ça. À quel moment, alors que vous étiez dans le milieu du théâtre, avec les comédiens, le studio Pygmalion, vous avez eu envie de vous spécialiser à quel moment vous découvrez Coué et pourquoi il vous parle autant?
Alors, ça s'est fait en deux temps. Le livre, je l'avais à la maison et j'avais dû le lire. Nous avons décidé au studio Pygmalion de devenir des coachs pour comédiens. Je n'ai pas du tout ce mot.
Et il n'est pas le mot coach.
Non, alors je sais que c'est le titre de cette émission, mais je m'y suis fait. Et j'avais dit à mon associé, c'est vraiment drôle de nom, c'était il y a 35 ans, hein, donc ça n'existait pas encore, ça arrivait même pas en France. Et puis le coaching est arrivé en France, je me suis formé moi au coaching, et c'est en me formant au coaching que j'ai dessiné un jour ce que j'appelle ma molécule, et où je parlais de volonté et d'imagination. On aura l'occasion d'en reparler. Puis quelqu'un m'a dit, c'est marrant, ce que ta façon de parler fait penser à la méthode Coué, est-ce que tu connais? J'ai dit, bah oui, je connais, je sais que j'ai le bouquin à la maison. Il m'a dit, relis-le. Et il a bien fait. Depuis, je me suis intéressé à la méthode et j'en suis devenu effectivement un spécialiste et j'ai de quoi en parler.
Et vous avez donné Irène Cazenave, en tant qu'hypnothérapeute, évidemment, depuis longtemps, vous connaissez la méthode Coué et Mille Coué.
C'est évidemment une référence dont on parle d'ailleurs dans les formations d'hypnose, sans citer le nom d'Émile Coué qui est peut-être vécu comme trop ancien, alors que pour moi, il est extrêmement novateur et je trouve ça formidable qu'il y ait des livres qui ressortent aujourd'hui parce que peut-être qu'il est arrivé un peu trop tôt avec sa méthode, que tout le monde reprend sans dire que le travail justement sur l'imaginaire qui passe au-delà de la volonté, qui est quand même la base et les fondements de l'hypnose, telle qu'elle est enseignée et telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont les mots d'Émile Coué en fait.
Luc Tessier-Dorfeuille.
Je confirme ça. Émile Coué s'est intéressé à la ville de Nancy pour deux raisons. Un, parce que son beau-père était nancéen et a construit une maison pour lui et sa fille. Donc ça, ça valait la peine d'aller s'installer à Nancy. Mais avant d'avoir connu Lucille, sa femme, il s'est intéressé à la première école de Nancy, qui était l'école d'hypnose et de suggestion du docteur Bernheim et du docteur Liebo. Ça l'a passionné. Et il a lui-même créé ensuite ce qu'on a appelé la deuxième école de Nancy, au-delà de l'école d'art, et qui est devenue l'école Lorraine de psychologie appliquée. Et c'est à Nancy et avec Coué qu'est née la psychothérapie.
Mais partons de la vie de Coué au tout début, avant tout ça. Il est pharmacien, si je ne m'abuse, Émile Coué.
Tout à fait, il est pharmacien. En fait, il voulait être chimiste. Et heureusement, il n'a pas été chimiste. Il voulait être chimiste, mais les études de chimie coûtaient trop cher et son père n'avait pas les moyens de le lui payer. Il était employé des chemins de fer dans l'Est, alors qu'ils étaient bretons d'origine. Et donc, il a dit, non, tu feras de la pharmacie, puisque pharmacie, tu peux travailler très jeune, tu peux tout de suite être commis dans une pharmacie, donc ça paiera les études. Et c'est comme ça qu'il a démarré, et le propriétaire de la pharmacie était étonné de la manière dont Coué recevait les patients et les mots qu'il disait aux patients. Et c'est comme ça que, petit à petit, Coué a pris de l'ampleur, et c'est comme ça que il a commencé à développer sa méthode en prenant conscience de l'impact des mots qu'il disait aux patients, l'impact que ça pouvait avoir en complément du médicament. Et on peut parler là de l'effet placebo.
L'effet du médicament. Alors, c'est vrai que, tout de suite, quand on pense Émile Coué, on pense pensée positive, n'est-ce pas? Mais avant tout, et d'ailleurs, c'est le sous-titre de ce livre-là, Luc, c'est pouvez-vous éclairer nos auditeurs, peut-être les béotiens, ceux qui ne connaissent pas, pour le coup, on peut imaginer qu'il y a encore des gens qui découvriraient la méthode Coué et Émile Coué, chacun a une culture limitée, moi le premier. Qu'est-ce que l'autosuggestion consciente? Luc Tessier d'Orfeuille.
Alors effectivement, la meilleure définition de la méthode Coué, c'est le titre du seul ouvrage de Coué qui fait qu'une petite cinquantaine de pages qu'ensuite il a agrémenté. C'est la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Et qu'est-ce que c'est que l'autosuggestion? La définition la plus courte et la plus simple, c'est celle d'Émile Coué. L'implantation d'une idée en soi-même par soi-même. Comment je fais pour m'implanter une idée? Voilà le concept de Coué. Et pour s'implanter une idée, il y a plusieurs options. Il y a trois grandes options. Se répéter des phrases.
Et là, il y a tout le travail des affirmations positives.
Tout le travail des affirmations positives que l'on retrouve dans des religions.
Les mantras, tout ça, ouais.
Et puis, on peut faire de l'autosuggestion par le corps. Et Émile Coué évoquait ça, et on pourra en reparler tout à l'heure.
Ça nous intéressera vivement. Comment par le corps,
De l'autosuggestion par l'image, et ça, c'est un peu plus connu, c'est la visualisation.
La visualisation qui a été très développée aux États-Unis, puis tout à fait. Guy Wayne et tout. Mais c'est quand même incroyable, n'est-ce pas, Irène Cazenave, que, en fait, le fondateur de tout ça, finalement, des pionniers de tout ça, c'est un petit pharmacien. Enfin, j'enlève petit est un mot horrible qui rétrécit.
Oui,
c'est un pharmacien de Nancy français.
Oui, et il y a plus d'un siècle. Et où il a été un peu suivi et puis vite oublié en France. Heureusement, beaucoup connu dans d'autres pays, notamment aux États-Unis.
Je pense que le courant spiritualiste et même, on va dire, tout le côté West Coast à partir des années 60, le New Age des années 80. Irène, ça part de là quand même.
Mais complètement.
La psychologie positive.
La méthode Silva reprend des choses d'Émile Coué aussi. Il y a vraiment, c'est le père de tous les mouvements de psychologie positive et où il le fait, lui, de façon empirique, sans tout dévoiler, et où on découvre maintenant, avec des études scientifiques, que ça fonctionne.
Eh bien, on va voir tout ça page après page. C'est passionnant. Restez avec nous. Vous allez découvrir beaucoup de choses, des techniques d'Émile Coué. Nous avons le plus grand spécialiste français. Cette chance d'en pour vivre, vous coacher. Une page musicale et on revient avec vous tout de suite.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'en. Thank you. pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes. Le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens.
Ah, j'adore cette chanson Santa Popcorn Salé, c'est mon coup de cœur. Vous appelez beaucoup, vous êtes passionné par ce thème, c'est très important. On a un premier radio coaché.
Christophe Médici, radio coaché.
Bonjour Anne. Nous sommes ravis de vous accueillir dans Pour vivre heureux, ils vont coacher dans l'émission sur la méthode Coué avec Luc Tessier-Dorfeuille. Qu'aimeriez-vous lui poser comme question ?
Eh bien, est-ce que la méthode Coué peut aider quand on est malade, c'est-à-dire en souffrance psychique ?
Très bonne question, Luc Tessier-Dorfeuille.
Alors, c'est une bonne question. Émile Coué était pharmacien, donc la méthode, il l'a développée pour aider les gens à guérir. Ça, c'est la première chose. Donc, son métier à lui, c'était la santé. Par rapport à ce qui est psychique, ou que ce soit physique, hein, ce que disait Coué, c'est que ça vient toujours en complément de la médecine. Donc, n'oublions pas ça. C'est un complément à la médecine, mais oui, et en fonction, bien entendu, ça peut aider.
Donc vous voyez Anne, ça peut aider, mais Luc dit bien, qui est le grand spécialiste français de la méthode Coué, que c'est complémentaire à la médecine. Ça vous parle Anne ?
Oui, ça me parle, mais la formation en accéléré en coaching que je suis pour le moment m'apporte aussi un complément d'information et une dynamique pour avancer par rapport à la situation.
Oui, bien sûr. Alors en tout cas, merci Anne. Vous nous appelez de quel pays ?
De la Belgique.
Ah, oh, nous adorons les Belges et la Belgitude. Vous êtes des gens très gentils, adorables. Et vous avez fait quoi comme métier dans votre vie, Anne ?
Eh bien, j'ai été enseignante.
Une enseignante.
Puis je suis devenue pédagogue.
Alors, on peut demander justement, Anne, à Luc Tessier-Dorfeuille, oui, s'il y a des enseignants qui utilisent le Coué ou qui forment à Coué. Luc Tessier-Dorfeuille.
Je ne sais pas s'il y a des enseignants qui l'utilisent, mais ils devraient l'utiliser, puisque Émile Coué, on pourrait le dire aussi, est père de l'éducation positive. Un cinquième de son ouvrage, c'est l'éducation telle qu'elle devrait être. Et il est très très fort là-dessus. Comment je parle aux enfants, comment je rends les choses positives, comment je leur parle de manière positive, comment j'arrête de leur faire peur, hein, et toutes les croyances qu'on peut mettre dans la tête d'un enfant qui fait qu'il peut baisser en estime de lui. Et Coué travaille là-dessus, tout à fait, et ça vaut la peine de le relire, et tout ça avant Ruffaut, avant Dolto et d'autres.
Et même avant les grandes écoles expérimentales, que ce soit Montessori, Steiner et tutti quanti. Anne, on va vous embrasser, on vous remercie d'avoir participé à Pour Vivre Heureux, Yvon Cotché. À bientôt, Anne.
Oui, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir, Anne.
Merci, monsieur, au revoir.
Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Le gris-boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Et y a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie, le percepteur message à quête plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit, donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Le fou chantant. Voilà quelqu'un qui nous amenait de la joie dans notre cœur et dans nos têtes. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour Vivre Heureux, Yvon Cotché sur Dynamic Radio. Nous sommes toujours avec le grand spécialiste français Luc Tessier d'Orfeuille pour parler de la méthode Coué et avec Irène Cazenave, la chroniqueuse hypnothérapeute. Luc, s'il y a bien deux concepts qu'il faut développer dès le début ou très rapidement dans l'émission, c'est cette idée que vous d'ailleurs vous soumettiez, vous exprimiez, Irène, pardonnez-moi, que en fait Émile Coué dit... une différence entre volonté et imagination, et sa grande phrase, n'est-ce pas, Luc, c'est de dire que l'imagination sera toujours supérieure à la volonté. Vous pouvez expliquer ça aux auditeurs?
Oui, tout à fait. Alors, je peux proposer un exercice à faire, c'est ce que je fais dans mes stages, et je le fais même en conférence sur scène, où je fais monter 5 personnes, et je leur propose, il faut qu'il y ait une bonne distance, de marcher, alors vous pouvez faire ça chez vous, marcher en allant vers un mur. Et il faut qu'il y ait au moins 5 ou 6 pas. Comptez le nombre de pas exacts. Puis refaites la même chose, vous savez le nombre de pas, vous savez qu'il y a 6 pas. Eh bien, fermez les yeux et faites les 6 pas. Et vous verrez que vous aurez du mal à faire les 6 pas parce que là, votre imagination vous fait faire un ralenti. Vous avez peur de vous prendre la porte, même si vous avez intellectualisé, même si dans la raison, la raison qui est du côté du conscient, vous dites « il y a 6 pas, je dois pouvoir faire les 6 pas », votre imagination va vous freiner. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, c'est votre instinct de survie. Ceux qui se prendraient la tête à cause de moi sur la porte, je vous prie de m'en excuser. Et c'est que vous êtes un petit peu téméraire et que vous êtes capable de vous mettre en danger. Mais c'est la preuve là que ce combat entre volonté et imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne. Autre exemple, c'est marcher sur une planche en hauteur, une planche qui serait posée par terre. Vous êtes capable de monter dessus et de marcher, de la traverser. Si vous la mettez entre deux immeubles, ça sera plus pareil.
Ça sera plus... Irène Cazenave, cette histoire de l'imagination, c'est déjà une phrase d'Einstein. Einstein disait aussi l'imagination est supérieure à la connaissance, même Einstein.
complètement, et on le vérifie aussi, et c'est repris dans d'autres contextes où on parle du pouvoir de l'inconscient. Quand Émile Coué parle d'imagination, en réalité, il parle de l'inconscient. Et on le voit pour notamment les gens qui veulent, ont la volonté d'arrêter de fumer, d'arrêter de trop manger, il y a des mécanismes inconscients qui font que la volonté seule ne peut rien y faire. Donc il y a vraiment cette prédominance de l'inconscient qu'on voit tous les jours dans nos métiers.
Est-ce qu'on sait comment Émile Coué, dans son officine ou dans sa vie, Luc a petit à petit conscientisé ça? C'est par des expériences, en travaillant avec ses clients? Comment a-t-il fait?
C'est effectivement en travaillant avec ses clients d'abord, et tout jeune, hein, jeune apprenti, avant même d'avoir son diplôme de pharmacien, il a d'ailleurs racheté la pharmacie dans laquelle il a démarré, c'est de prendre conscience de l'importance des mots. Hein. Et imaginez que demain, vous allez voir un médecin parce que vous avez un souci, vous allez à la pharmacie, le pharmacien prend l'ordonnance, regarde l'ordonnance et dit « il est temps qu'il prenne sa retraite, on sait que ça sert à rien ce médicament ». Ben, vous n'allez pas vous sentir très bien. Alors que si le pharmacien vous dit, ben, vous allez voir, avec ça, en 2 jours, vous êtes sur pied, déjà, ça va participer de la guérison. Et c'est ça que Coué a commencé à comprendre. Alors, bien sûr, de manière empirique. Et puis, il s'est intéressé à l'école de Nancy, à l'hypnose, le docteur Bernheim, Liebo. Et c'est là-dessus qu'il a développé son approche et sa méthode.
C'est passionnant. Restez avec nous. On passe une nouvelle page musicale et vous appelez beaucoup. On va tenter de prendre le plus grand nombre de gens possible. On vous le promet.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing.
L'immense, le grand Elton John, I'm still standing. Voilà de la psychologie positive pour parler de l'homme qui peut-être au XXe siècle a fait découvrir ça à la population française entière et au monde entier. Je pèse mes mots. Émile Coué, à qui on rend ses lettres de noblesse aujourd'hui, grâce aussi à son grand spécialiste, monsieur Luc Tessier-Dorfeuille. Vous appelez beaucoup. On essaie de vous avoir en ligne tous pour vous coacher.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Milena.
Oui, bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Quelle question aimeriez-vous poser à Luc Tessier-Dorfeuille ?
Oui, aujourd'hui j'avais la question, quels sont d'après lui les héritiers de la méthode Coué dans le développement personnel ?
Je dirais que toutes les approches aujourd'hui dérivent de Coué, parce qu'il est carrément précurseur il y a un siècle, mais je vais en livrer deux. Je vais parler de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est une des approches de Coué avec les mots. Nous pourrons en reparler tout à l'heure. Et l'un des deux fondateurs, Richard Bandler, le cite dans ses sources. Donc, ce que je vous dis, c'est une vérité. Et puis, on peut parler de la sophrologie aussi, qui est très utilisée, aussi bien pour la santé que pour la préparation mentale des sportifs. Et il se trouve que Alfonso Caicedo, le fondateur de la sophrologie, qui a vécu en Andorre ces derniers temps, mais qui est un Argentin, c'est l'homme qui a traduit pour la première fois Émile Coué en espagnol. Donc vous voyez que là aussi, c'est des sources.
Il y a du sens là. Dites-nous Milena, vous êtes passionnée par le développement personnel ?
Oui, tout à fait. J'ai fait beaucoup de développement personnel, dont la PNL. C'est vrai que je ne me suis pas encore... approché ou intéressé à l'astrophologie, mais effectivement c'est une piste à découvrir.
Est-ce Merci que beaucoup. vous êtes formé aussi un peu aux États-Unis avec des gens que je sais pas comme Tony Robbins ou autres?
Oui, tout à fait. J'ai effectivement suivi une des formations de Tony aux États-Unis et en Europe, et effectivement il est un peu reconnu, on va dire, comme le gourou de la PNL.
Oui, alors moi, et je trouve ça passionnant ce que fait Tony Robbins. Ça vous avait apporté, en trois mots, qu'est-ce que ça vous avait apporté, Tony Robbins ?
Ben, en fin de compte, ça donne une nouvelle dimension de sa vie, et ça nous permet vraiment de prendre conscience des différentes dimensions de notre vie, puisqu'il les sépare en 5-6 secteurs différents. Et c'est vrai, ça nous aide à développer et à voir chaque année nos objectifs et voir comment est-ce qu'on peut se développer dans les différents secteurs de sa vie.
C'est passionnant, Luc, n'est-ce pas ? On peut penser que tous ces grands, entre guillemets, coachs et conférenciers à West Coast américains, ils ont des liens finalement avec notre pharmacien Émile Coué de Nancy.
Ouais, très clairement. Alors déjà, je voudrais aller dans le sens de ce qui a été dit. Il y a probablement une belle expérience qu'a vécue notre auditrice.
Milena,
c'est de marcher sur le feu. Moi, j'ai eu la chance de faire ça aussi. Et c'est assez étonnant. Voilà. Et je me disais qu'en tant que spécialiste de la méthode Coué, il fallait quand même que je le fasse au moins une fois.
Alors Milena, vous avez marché sur le feu, vous aussi ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est effectivement un des grands...
C'est un des pics du week-end, enfin du stage, du séminaire de Tony.
Oui, il y a la marche sur le feu, mais il y a aussi quand on se lance 80 mètres dans le vide. C'est vrai que c'est impressionnant et c'est quelque chose qui marque à vie.
Marque à vie parce qu'on se dit que là, l'idée que... Vous savez que, chers amis auditeurs, j'ai eu l'insigne honneur et la chance d'être invité à faire un TEDx par Central Supélec, qui est une poignée de moi, dont le thème de la soirée était « Au-delà des limites », n'est-ce pas ? Et moi, j'avais évidemment pris le thème de libérer votre cerveau de votre saboteur, parce que cesser de vous saboter pour dépasser vos limites. D'ailleurs, je dois être aussi... un héritier d'Émile Coué, puisque je t'explique aux gens que... Mais il y avait même avant Émile Coué, vous voyez, Luc Tessier-Dorfeuille. On va pousser un petit peu intellectuellement, parce que je cite en exact de mon livre cette phrase d'un homme, qui est quand même un homme impressionnant, qui avait dit « Fais attention à ton mode de pensée, à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. » Qui a dit ça ? Mélanie Klein, Freud, Reich ? Eh bien non, c'est Saint François d'Assise au XIIIe siècle, vous imaginez. Donc 7 siècles même avant Émile Coué, François d'Assise comprend que ce qu'on pense et ce qu'on dit a un impact sur notre destin, Luc Tessier-Dorfeuille. C'est fou.
Ça peut venir de plus loin encore. Et si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport à l'imagination de la planche sur laquelle nous pourrions monter et marcher, cet exemple que prend Coué dans son ouvrage, en fait, il le reprend chez Blaise Pascal, qui lui-même le reprend chez Montaigne, qui lui-même le reprend chez des philosophes grecs. Donc, on remonte vraiment très, très loin.
On se rend compte quand même que le développement personnel a des racines, des grands auteurs. Et tous ces auteurs, on a fait nos humanités, en fait, on a lu ça en filigrane chez ces auteurs-là. Et en fait, comme disait le vieux roi Salomon, rien de nouveau sous le soleil. Milena, donc vous faites un travail sur vous pour devenir ce qu'on pourrait dire la meilleure version de vous-même, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Vous me l'enlevez de la bouche.
Eh ben écoutez, on va vous remercier. Vous avez été passionnante. Merci d'avoir participé à Vivons Coaché. On vous dit à très bientôt.
Vous
likez l'émission sur la page.
Oui,
à très bientôt. Au revoir, Milena. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Eh bien voilà comment devenir heureux et se balader tout au long de son existence en homme heureux. C'est peut-être une des questions qu'on se pose en réfléchissant à la méthode Coué avec notre grande spécialiste Luc Tessier-Dorfeuille qui sort aux éditions Le Duc depuis pas mal d'années un grand nombre de livres passionnants sur la méthode Coué, chers amis auditeurs. Luc, revenons à l'histoire. Donc comment évolue la vie d'Émile Coué et qu'est-ce qui fait évoluer dans sa méthode ?
Alors d'abord, il démarre, sa pharmacie, c'était à Troyes.
Hein. Dans l'Aube.
Il est connu comme le marchand de bonheur de Nancy, et c'est comme ça que l'on surnommait les Américains. Les Américains s'intéressent à ses travaux, un Suisse s'est intéressé à ses travaux, c'est lui qui a fait connaître Coué d'ailleurs, c'est Charles Baudouin, connu, reconnu aujourd'hui, il y a un énorme institut en Suisse d'études sur tout ce qui tourne autour de la psychologie, et il a traduit son ouvrage en anglais, et ça a permis à Coué de se faire connaître à l'étranger. Le premier voyage de Coué à l'étranger, c'était 30 jours aux États-Unis pour 30 conférences. Ils ont été obligés de rajouter 10 jours. C'était complet tous les jours.
Dans les années quoi ?
Nous sommes juste après-guerre.
Oh, après 45, quoi ?
Non, alors
après la première
guerre mondiale,
donc
c'est
au début de fin des années début des années 20 quoi.
Et les deux fois, il est reçu à la Maison Blanche.
Il
est reçu à la Maison Blanche et deux des journaux de l'époque et il y a des traces de ça, hein, deux des journaux de l'époque font la une tous les jours avec le passage de Coué aux États-Unis. Et Henry Ford le reçoit et organise pour lui des conférences, Carnegie Hall, etc.
Ça...
On est à l'époque de Carnegie.
Carnegie, comment se faire des amis, l'art de se faire des amis.
Comment se faire des amis. Premier livre qu'on va dire de développement personnel aujourd'hui.
Très beau livre d'ailleurs.
Édité dans le monde depuis un siècle. Deuxième, c'est celui d'Émile Coué.
Ce qui est incroyable, ça pourrait dire pourquoi, puisqu'il se fait connaître par Dale Carnegie, chers amis auditeurs, qui était quand même un milliardaire, hein, quelqu'un qui vraiment avait beaucoup d'argent, la méthode Carnegie, dont on parle, lui qui a raison encore aujourd'hui, mais ça voudrait dire aussi que les Américains, dès les années, fin des années 10, Irène et donc dans les années 20, connaissaient le travail d'Émile Coué. Moi, j'apprends là, chers éditeurs, qu'il avait été traduit. Moi, j'apprends deux choses grâce à lui, qu'il avait été traduit en anglais et surtout ce cycle de conférences. Qu'est-ce que vous en pensez, Irène Cazenal? Parce qu'on voit bien la filiation avec tout ce dont on parlait il y a quelques minutes, le West Coast et...
Complètement, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les... qu'on a retrouvé après à Palo Alto, etc., avec la PNL. Il y a aussi cette idée que nul n'est prophète en son pays. Il y a beaucoup comme ça de thérapeutes, de gens qui sont très précurseurs, peut-être trop précurseurs, qui finalement sont découverts dans d'autres pays où en France on a été assez vite, j'ai envie de dire, accaparé par la psychanalyse. Dans les années 20, c'était l'hypnose qui perdait un petit peu de sa superbe avec les divisions, avec l'école de Nancy, etc. Et il y avait peut-être plus trop de place là, et la psychanalyse a pris toute la place.
Luc, la psychanalyse aurait pris trop de place.
La psychanalyse a pris de la place. L'hypnose a un petit peu disparu et en même temps elle était présente. Je vais quand même revenir sur l'histoire et après je reviendrai là-dessus. Sur l'histoire, on a parlé des États-Unis, mais il se trouve qu'il y a aussi un buste d'Émile Coué, parce qu'il en existait aux États-Unis, en Russie. Le grand-duc Boris s'est intéressé aux travaux d'Émile Coué et il est devenu administrateur de l'Institut Coué de Nancy. Donc c'est assez énorme. Et anecdote que j'adore raconter, certains des auditeurs ont peut-être vu ce magnifique film, et Christophe également, et Irène, Le discours d'un roi.
Oui.
Vous avez vu ce film?
Bien sûr.
Superbe. Eh bien, j'ai la chance d'avoir une copie d'une lettre du secrétaire du duc d'York remerciant Émile Coué pour les progrès du duc sur son bégaiement. Et la lettre se termine, mais vous comprenez que vous êtes à Nancy, le duc est à Londres, il va falloir trouver une solution plus pérenne. Et là, on arrive à cette solution que l'on voit dans le film. Donc, Émile Coué était vraiment connu dans le monde entier. Et oui, nul n'est prophète en son pays, trop en avance sur son temps. D'ailleurs, les médecins ont failli lui faire un procès pour exercice illégal de la médecine. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il était tellement connu qu'ils se sont dit « ça va se retourner contre nous ». En revanche... un mois après la mort de Coué, ils ont eu la peau des instituts Coué en faisant en sorte que ces associations, puisque c'était une structure associative, ne soient plus reconnues d'utilité publique.
On a un vrai problème dans notre pays. Et là, je pèse mes mots, parce que cette querelle des anciens et des modernes qui date depuis Mathusalem, on veut dire que c'est presque plus, puisque je suis entouré d'hommes de théâtre et que j'en ai fait 11 ans et un certain temps en professionnel aussi, et que j'ai passé le conservatoire et que tout ça. Donc, on est aussi des gens de scène. On pense à la bataille d'Hernani, évidemment, hein, pour la querelle des anciens et des modernes. Mais la France est un pays bleu, si je reprends la grille des sociostyles. On est un pays d'analysants. L'analysant, il aime ce qui est conforme, conformiste et fait, qui existe depuis des décennies, des siècles et des siècles et des siècles. Et la France est un pays comme ça. À partir du moment où tu es, comme dirait Bachelard, dans une intelligence créatrice, et Bachelard disait créer, c'est penser à côté, n'est-ce pas? Toujours penser à côté. Et bien, d'une certaine manière, en France, on gêne les bleus. On gêne les bleus, et donc Émile Coué devait gêner les bleus. Et donc, à partir de ce moment-là, il lui coupe la tête. Mais c'est presque de l'inquisition, vous voyez ce que je veux dire, Irène? C'est toujours le même problème, quoi. Toujours, 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 Irène.
Et c'est aussi pour ça qu'il revient à l'heure actuelle, où il y a des études, justement, sur ce qu'apporte la pensée positive. Et donc, on revient, et j'ai presque envie de dire, on le réhabilite.
Mais vous parlez de Coué au Panthéon? Au début du livre.
Bien entendu, parce que ça, c'est mon projet de vie.
C'est mon grand rêve, ça. Hein.
C'est mon projet de vie.
Coué au Panthéon, dans la préface, Émile Coué au Panthéon.
Émile Coué au Panthéon et la méthode Coué au patrimoine immatériel de l'humanité.
Ça devrait l'être.
On a bien mis la baguette, on pourrait bien y mettre la méthode Coué, hein, comme ça, ça fera deux produits français à cet endroit-là. Par rapport à ce qui était dit sur la psychanalyse, il y a une lettre de Freud... deux barbus qui ont travaillé sur l'inconscient et le conscient, parce qu'ils étaient tous les deux barbus, aujourd'hui un peu décriés, l'un comme l'autre, hein, mais une lettre de Freud demandant à ses disciples de ne pas s'attaquer comme ils s'attaquent à la méthode Coué et à Émile Coué, en disant, en fait, il y a des tas de choses qu'il dit qui sont vraies. Et ils ont tous les deux été formés à l'école de Nancy. Sigmund Freud est passé voir Bernheim peu de temps avant Coué. Simplement, il ne fonctionnait pas de la même manière. Il disait, Coué ne s'intéresse qu'à l'avenir. Il faut prendre conscience de pourquoi nous sommes comme ça et s'intéresser au passé. C'était pas le sujet de Coué. C'est comment aller mieux demain. Et ça m'intéresse pas de savoir pourquoi vous allez pas bien.
Et c'est pourquoi, au fait, tous les hommes, moi, que j'admire et ma méthode haute qualité relationnelle est tirée de ça. Elle est, on va dire, descendante d'un fils spirituel, allez, on va jusque-là, allons-y, puisqu'il est allé aux États-Unis, d'un fils spirituel d'Emmanuel Coué, qui est Martin Seligman, évidemment, pour qui je vois un culte sans borne, puisque c'est le père fondateur de la psychologie positive, grand professeur, chers amis auditeurs, à l'Université de Pennsylvanie, le fondateur des cinq piliers de la psychologie positive. Donc, on peut dire un fils de Coué, avec ce magnifique chef-d'œuvre, La force de l'optimisme, L'art de changer et Tutti Quanti, qui sont quand même des livres. Voilà. Et pour revenir à ça, Luc a entièrement raison, chers amis auditeurs, parce que quand même, continue encore l'histoire. Comment Martin Seligman, qui est au départ un psychanalyste, psychothérapeute complètement classique de formation freudienne de base, et un jour il est dans un avion et il est avec un businessman qui demande à Martin, puisque j'ai fait des conférences là-bas 2-3 fois, pourquoi il travaille de cette manière-là, et il lui explique, écoutez, les névroses, le passé. Et alors lui, qui est un béotien, businessman, lui dit, écoutez, ça fait 2 heures que je vous écoute, n'est-ce pas? Vous me dites tout le temps, pourquoi vos patients, pourquoi vont-ils mal? Et vous êtes continuellement à les écouter sur leur mallette. Et il pose cette question, mais vraiment béotien et Kama, mais a suffoqué Martin Seligman, et l'a fait complètement changer de paradigme, et dit, vous leur demandez pas comment ça va quand ils vont bien, et faire en sorte qu'ils aillent bien maintenant. N'est-ce pas, Luc? C'est incroyable. Et c'est ce qui fait tout changer quand il sort de l'avion, Martin Seligman, qui se dit, mais oui!
Il va enfin s'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on peut aller bien. Et c'est comme ça qu'effectivement est née la psychologie positive. Et Christophe, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Martin Seligman lors de sa dernière conférence en France au Printemps de l'Optimisme. Je me suis permis d'aller le saluer à la sortie en disant que j'étais celui qui travaillait la réhabilitation de la méthode Coué. Et il me regarde et il me dit, every day, in every way, I'm getting better and better. Donc, il sait très bien, je viens de vous dire en anglais la phrase qu'Émile Coué proposait de se répéter tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et Martin Seligman me l'a cité à la seconde quand j'ai parlé de la méthode Coué.
Une page musicale, c'est passionnant, restez avec nous, restez en ligne, ça va continuer. Dans une flamme allumée,
j'ai une longueur d'avance sur toute l'éternité.
Ah, j'ai du mal à vous le dire,
tellement honte d'en sourire. Ah, heureusement que j'ai eu mal, tout ça était fatal. Je me suis tellement volée, je me suis tellement faite mal. Ça me fait rire qu'à moitié, ça me fait rire en silence. S'il me reste un sanglot, une petite lampe allumée dans mon âme, je les offrirai aux autres. Je me suis pardonnée.
Immense Véronique Sanson qui a dû travailler la méthode Coué pour se sortir d'ornière, parce qu'il faut dire, chers amis auditeurs, qu'elle a pas, sa vie n'a pas été qu'un lit de rose. Mais pour qui la vie est-elle un lit de rose? Et donc à certains moments il est bon d'utiliser des techniques pour travailler sur soi. Vous appelez beaucoup, je sais, vous avez très envie de poser des questions à Luc Tessier d'Orfeuille et à nous-mêmes. Nous avons un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour vivre heureux, vivons coachés. Vous savez qu'on travaille la question de la méthode Coué d'Émile Coué. Quelle question avez-vous envie de poser à Luc Tessier d'Orfeuille?
Alors écoutez, j'aimerais savoir, par rapport à toutes les nouvelles méthodes qui sont un petit peu à la mode, comme l'hypnose, le FT, ces différentes thérapies brèves, comment se situe le champ de la méthode Coué par rapport à ces nouvelles méthodes qui remportent, comme le MDR aussi, ce mouvement oculaire qui permet de travailler sur les traumatismes. Comment se situerait ou se situe en fait la méthode Coué par rapport à toutes ces méthodes? Est-ce que c'est décalé? Est-ce que c'est toujours d'actualité par rapport à ce qu'on appelle les thérapies brèves?
Merci Alain. Luc Tessier d'Orfeuille.
Ouais, j'aime à dire que Émile Coué est le père des thérapies brèves. Simplement, comme il a été décrit à l'époque, c'est peut-être celui qui est le plus connu de tout le monde. Quand on parle de Coué ou de la méthode Coué, les gens disent « oui, ça me dit quelque chose ». Mais parce que malheureusement, le mot méthode Coué ou l'expression méthode Coué, elle est devenue une expression courante avec ironie.
Et du c'est coup, vrai ce que vous dites, Luc, parce bah que oui. Souvent les gens se disent au détour d'une discussion « ouais, mais ça, c'est de la méthode Coué. Oh, ça, comme si on disait « c'est du pipeau ». Oh, c'est de la méthode Coué, ça. Oh, mais arrête avec ta méthode Coué. C'est vrai, hein ?»
Un serveur de recherche sur Internet très connu me remonte toutes les semaines un certain nombre d'expressions de journalistes en disant « Macron fait preuve de méthode Coué en disant qu'il pourra aller à Pontarlier sans qu'il y ait de casserolade,
oui, non, bad buzz, good buzz, parce que ça permet à Coué de
d'être connu,
d'exister, de continuer à perdurer. D'accord, on dit c'est la
Irène. Ça rentre dans le langage courant, et pour répondre à la question d'Alain, c'est vraiment le père de toutes les thérapies. Et évidemment, dans l'hypnose, on retrouve de la méthode Coué sans que ce soit nommé. On le disait tout à l'heure en sophrologie. Moi, je travaille aussi en gestalt-thérapie, et il y a cette notion aussi de prendre soin de ses pensées, de ses visualisations pour créer un avenir meilleur. Donc c'est vraiment au cœur, c'est le père et la mère de toutes les thérapies, c'est vraiment au cœur.
Alain, ça vous fait écho comment tout ça?
Bah écoutez, c'est vrai que je pense que la suggestion finalement est au cœur de l'humain, et c'est vrai que donc ça me donne envie en fait de m'intéresser beaucoup plus à la méthode Coué, dans le sens où je pense que cette suggestion a un passé qui est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît.
Oui, oui, Luc Tessier d'Orfeuille, Alain, nous le disait au cours d'émission. Émile Coué a fait des conférences aux États-Unis et des tournées de conférences dans les années 20. Il a été reçu à la Maison-Blanche. Luc, ça vous fait écho comment tout ça?
Moi, je regrette bien entendu qu'Émile Coué ne soit pas plus reconnu aujourd'hui, et toutes ces méthodes, on peut parler des TCC aussi. Hein,
thérapie cognitivo-comportementaliste.
Voilà, et ça fait partie aussi de ce que disait Coué. J'ai parlé tout à l'heure d'autosuggestion par le corps. Il y a une magnifique expérience au Kansas qui a été faite sur la notion de stress. les scientifiques intuitaient que pour gérer le stress, le sourire pouvait être utile. Alors ils ont mis les gens sous stress, deux types de stress, un stress physique, il s'agissait d'aller attraper dans un vase d'eau glacée des objets difficilement attrapables, et un stress mental, intellectuel, il fallait reproduire avec sa main, un dessin, un crayon, une croix ou une étoile. Et tout ça avec la main opposée, c'est-à-dire pour les droitiers la main gauche, et sans voir sa main, mais en la voyant avec un miroir. Enfin, un truc un peu compliqué pour le cerveau. Et on mesurait les niveaux de tension et de stress des individus. Et intuitant que le sourire pouvait être utile, les scientifiques ont fait ce test avec une population large pour mesurer les niveaux de tension, cortisol, tension cardiaque, etc. Puis après, ils ont pris des gens qui faisaient la gueule, et après, ils ont pris des gens qui souriaient. Mais ils n'ont pas dit « Christophe, vous êtes plutôt souriant, allez dans cette pièce », ou « Vous, vous faites plutôt la gueule, allez dans cette pièce ». Ils ont réparti au hasard. Dans une pièce, ils ont demandé, les auditeurs peuvent tester, ils verront ce que ça fait, de tenir une petite baguette, prenez un bic, entre la lèvre supérieure et le nez. Et vous verrez que ça fait un visage renfrogné. Dans l'autre pièce, ils ont demandé aux gens de tenir cette baguette dans la bouche le plus au fond possible. Ça vous oblige à sourire. C'est uniquement mécanique. Université du Kansas. Résultat des courses. Ceux qui ont le visage renfrogné et qui font la gueule sont plus en stress que ceux à qui on n'a rien dit. Ceux qui sourient sont moins en stress que ceux à qui on n'a rien dit, donc beaucoup moins en stress que ceux qui font la gueule. C'est purement mécanique. On est bien dans de l'autosuggestion par le corps. En utilisant mon corps, en me forçant à sourire, je fais baisser mon niveau de stress.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'au niveau 1 de ma méthode, il y a un passage au moment des étapes sur la gestion du stress. Ce que vous dites, Luc Tessidor, fait, il y a un terme. Ça s'appelle l'autosuggestion faciale. C'est-à-dire que, en fait, c'est la rétroaction faciale, le terme. Pardonnez-moi, c'est pas l'autosuggestion, je pense trop à
C'est bien.
C'est la rétroaction faciale. C'est-à-dire que, effectivement, cette étude du Kansas a raison. L'étude prouve avec la rétroaction faciale que moi il y a des gens je trouve qu'ils ont un visage qu'on appelle un visage de pierre ou un visage encore pire faisant une tête, eh bien ça a un effet, l'extérieur a un effet sur les neurones. Et là nous avons, parce que je crois que Alain vous nous appelez et on vous connaît un petit peu, vous êtes un grand thérapeute et spécialiste du yoga du visage et du facial, ça doit vous parler tout ça Alain.
Absolument, tout à fait, c'est vrai que
Pour tout le monde, vous êtes Alain Pénichaud, on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, vous êtes un grand spécialiste, vous avez dit à nos hôtesses hein, du yoga du visage, n'est-ce pas hein?
Tout à fait, et donc c'est vrai que ce qui vient d'être dit concernant le sourire, on sait que un sourire désarme le cerveau. Donc au Japon, ils apprennent dans les écoles de commerce à sourire pour le sourire commercial, mais qui va permettre d'accéder à l'autre par cette approche qui est vraiment une approche, je dirais, sensible.
Oui, alors ce qui est très intéressant pour vous faire rire, moi en tant que psychosociologue, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle l'ethnométhodologie. Là, on va rentrer un petit peu, on va passer sur France Culture, chers amis auditeurs, mais il y a une poignée d'années, dans un film qui était passé d'ailleurs sur Netflix, on voyait une histoire qui, à mon avis, est vraie d'ailleurs, parce que c'est tiré d'un western qui est complètement rigolo, mais qui montre quelque chose. Au tout début de la photographie, à l'époque du western, bon, c'est même pas encore des appareils photo, c'est d'être daguerréotype. Mais sachez, regardez bien, et tout le monde va le voir, chers amis auditeurs, la tête que font tous les Américains de l'époque, du Far West, devant un daguerréotype. Ils font tous une tête de 36 pieds de long, comme auraient dit nos grands-parents. Et se passe dans ce film quelque chose qui, à mon avis, est vrai, où, au bout d'un moment, et ça, on appelle ça en psychosociologie de l'ethnométhologie, parce que les us et coutumes de ce moment-là, c'était presque de se refaire maintenant, comme on fait obligatoirement pour avoir une photo qui passe, pour avoir une bonne pour notre passeport et notre pièce d'identité, quelque chose où on fait la tête, mais une tête de 36 pieds de long. Et se dit dans un des États des États-Unis, sais-tu la nouvelle? Connais-tu la nouvelle? Quoi? Il y en a un qui a souri sur une photo. Oh, mais le fou, la folle que ça... Non, c'est pas vrai. Si, ils ont osé sourire. Et cette personne passe par une folle dans tous les États-Unis. Parce qu'il faut tirer la gueule, Luc. Vous connaissiez l'anecdote?
Je connaissais pas cette anecdote, mais j'ai une expérience qui a été menée aux États-Unis. Les images Panini, peut-être que nos auditeurs ont collectionné ça, et images de joueurs de foot. En l'occurrence, c'est aux États-Unis, c'est pas des joueurs de foot, c'est des joueurs de baseball. Ils ont étudié la forme des visages et la durée de vie, en prenant des photos comme ça des équipes. On prenait des joueurs de baseball qui avaient la sale tête, hein, le méchant, le gars que vous avez pas envie de croiser le soir dans le métro. Et puis il y avait ceux qui avaient la bonne tête, ceux qui étaient plus neutres. Et le constat qui a été fait, en prenant toutes ces photos et les dates de vie de ces personnes, c'est que toutes celles qui souriaient vivaient plus longtemps que celles qui faisaient la gueule.
Tiens.
Alain. J'aimerais parler à notre auditeur Alain.
Alain Pénichaud.
Oui.
Il doit connaître cette expérience.
C'est pas étonnant, n'est-ce pas, Alain?
Oui, non, c'est fascinant parce que on est en plein dans le sujet de cette forme de suggestion qui est impliquée avec le visage, qui est le reflet des émotions. Et donc, c'est vrai que cette méthode de l'autosuggestion va nous permettre effectivement de pouvoir aussi maîtriser parfois notre visage et surtout de comprendre à quel point quand on tire la tronche, quand on est triste, et ben on peut transformer aussi son visage. Et à ce moment-là, on peut modifier aussi ses émotions.
Merci donc, beaucoup, Alain. Vous êtes passionnant. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir participé à Vivons Coaché. À très bientôt, Alain. On vous embrasse.
À bientôt.
Au revoir. Luc, on arrive bientôt en fin d'émission. Ce qui est quand même aussi très fascinant par rapport à ce que vous dites. D'abord, je pense qu'on ne se fait pas de soucis pour la longue vie d'Émile Coué. Je pense qu'au 23e siècle, on parlera, au 27e siècle, on parlera encore de lui. Grâce à vous aussi.
Et de mieux en mieux.
Grâce à vous aussi. Parce que vous, vraiment, quelque part, vous savez... sans vouloir vous toucher, hein, mais c'est pas de la flagornerie, mais vous savez, je pose comme question à mes stagiaires au niveau 3, si vous deviez citer 5 personnes que vous admirez dans l'humanité, citez-moi les 5, et ils savent pas pourquoi je leur pose cette question, chers amis auditeurs, faites cet petit exercice, un petit cadeau de Yvon Cotier. Et puis, je leur demande aussi, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, comme ça peut être quelqu'un d'illustre inconnu, mais ça peut être aussi Mère Teresa ou Napoléon, peu importe, mais surtout trouver 3 qualités pour lesquelles vous admirez cette personne. Et à la fin, à la toute fin de cet atelier, quand ils ont choisi mon grand-père parce que ça, Mère Teresa parce que Martin Luther King parce que ça, mon frère aussi Olivier parce que ça, je leur dis, vous voyez, ces 15 qualités-là, vous en êtes dotés. C'est-à-dire que vous, Luc Tessier d'Orfeuille, vous avez quelque chose d'Émile Coué. Vous ne pourriez pas être autant passionné par Émile Coué s'il n'y a pas quelque chose chez vous d'Émile Coué. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis ?
Bah, très probablement, hein. C'est ce qui est arrivé quand j'ai dessiné ce que j'appelle cette molécule, hein, que je présente sur mon site internet, où je mets cette opposition entre la volonté et l'imagination, et ça fait partie de moi. Et puis j'ajouterai ce que dit Émile Coué, qui était un altruiste, hein. Et donc je pense en être un. L'altruiste trouve sans le chercher ce que l'égoïste cherche sans le trouver.
Moi je connais votre générosité parce qu'on la partage, et je pense qu'on a ce point commun, vous et moi, parce que je pense, moi, comme dit un proverbe, chers amis auditeurs, d'un géorgien anonyme, écoutez bien cette phrase, parce que pour moi c'est une des plus belles définitions de la générosité. Il disait, c'est anonyme, ce que je sais, si je te le donne ce soir, je le garde pour la vie, si je le garde, je le perds. Mais dites bien ça, parce que tout le monde ne fait pas ça. L'immense majorité des gens, quand ils ont un pouvoir, ils le regardent comme un savoir, comme un pouvoir, ils vont écraser la tête des gens. Et moi, j'ai vu Luc Tessier d'Orfeuille, depuis 15 ans que je donne des conférences dans des salons. Je vous dis bien, chers amis, quand il passe avant moi, c'est le seul, vous m'entendez bien, le seul, à parler de ma conférence après, à me valoriser après. Et il n'est pas payé pour ça. Et il n'est pas obligé de le faire. Ne rougissez pas, lui. C'est la vérité. Et ça vous prouve que la vraie des générosités, pense à ce que dit Bouddha, hein, c'est que Bouddha dit, le plus grand gain, c'est de donner, la plus grande perte, c'est de recevoir sans gratitude. Qu'en pensez-vous, Irène ?
Complètement. Et la gratitude, ça fait aussi partie des suggestions, parce que plus on a conscience des cadeaux que peuvent nous apporter la vie, plus on a conscience du cadeau qu'est la générosité, et mieux on se porte, et mieux en mieux chaque jour.
Mais Luc Émile Coué devait être très généreux, et on se rend compte, vous et moi, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas tant de gens généreux autant que ça, finalement, autour de nous.
Mais Émile Coué était d'autant plus généreux que... Aujourd'hui, on dit conférence, Christophe. À l'époque, on disait causerie. Sur la fin de sa vie, il en faisait jusqu'à 5 par jour. Ça durait une heure. Quelles que soient les personnes, elles devaient passer par là. Que vous soyez grand-duc Boris de Russie ou que vous soyez la cantatrice de Londres qui venait pour sa conférence, tout le monde, en même temps, il ne faisait pas d'individuel. Jusqu'à 5 par jour, c'était gratuit. Il n'a jamais voulu toucher d'argent pour son approche et pour sa méthode. Donc oui, c'était quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Il s'est usé la santé d'ailleurs avec ça. Mais à chaque fois que ça a été payant, parce qu'aux États-Unis, on aime le business et beaucoup d'Américains en ont fait du business de la méthode Coué, tout ce qui était récupéré comme argent, c'était toujours pour des œuvres.
Ça, c'est beau. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans une époque complètement quantophrène, n'est-ce pas, et vraiment qui effectivement quantifie tout, je finissais souvent mes conférences par cette phrase d'Einstein qui dit « Tout ce qui compte ne peut pas être compté, tout ce qui peut être compté ne compte pas toujours ». C'était une très jolie phrase, mais pour ça, il faut être dans la qualité. On n'est quand même pas dans une époque qui prône la qualité sur la quantité, Irène, qu'en pensez-vous ?
Oui, après, on regarde aussi l'époque à travers notre prisme, mais le monde qu'on a, c'est le monde qu'on construit avec nos proches.
Et du c'est modèle comment... dominant, en tout cas.
Oui,
parce que
bien
peut-être
sûr.
Que Luc, moi, vous, d'autres qui avons nos courants,
sûr.
Nous ne sommes pas forts, nous nous battons, hein, on a cette vision gandhienne, mais on n'est peut-être pas le modèle dominant.
Certes, après, il y a cette question de... quand on voit que Émile Coué a traversé quand même le siècle, qu'il est on ne peut plus actuel
et qu'on
aujourd'hui,
en parle encore en 2023.
Qu'on en parle et qu'on a effectivement besoin toujours d'en parler à l'heure actuelle. Il est plus que jamais nécessaire.
Je pense qu'il est nécessaire. Pour les jeunes, et vous avez commencé à un moment donné à parler d'éducation, c'est vrai que c'est le dernier chapitre là-dessus, pour l'éducation qui est dans un état en France, mais déplorable. Vous êtes d'accord, Luc, et c'est un doux euphémisme de dire que le système scolaire est déplorable. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour leur dire allez fouiller, allez goûter à l'œuvre d'Émile Coué, quel que soit votre âge, pour finir cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Moi, je vais dire un truc simple, hein, mais je vais faire un petit peu de promo. Il y a un site internet qui est méthodecoué.com qui est gratuit. Allez là-dessus, vous n'aurez rien à payer. Il y a 3 formes d'autosuggestion. Vous pouvez pratiquer ces 3 formes d'autosuggestion. Moi, j'ai eu la chance de co-organiser 2 congrès internationaux sur le sujet. Je ne suis pas un neuroscientifique, je ne suis pas un scientifique, mais nous avons fait témoigner uniquement des médecins et des scientifiques et tout ce corrobore, comme le disait Irène tout à l'heure, les intuitions de Coué qui étaient empiriques il y a un siècle. Donc pratiquez la méthode Coué et vous verrez, ça vous fera plus que du bien.
Merci beaucoup Luc Tessier d'Enfin, merci beaucoup Irène Cazenave, merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission, merci à la réalisation et aux assistants et aux stagiaires sans qui toute cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Tout le monde compte sur la Terre, tout le monde compte. Et je finirai par cette phrase, comme c'était vraiment une belle émission, de Jimi Hendrix, qui disait « Quand l'amour du pouvoir l'emportera sur le pouvoir de l'amour, peut-être qu'un jour, l'humanité connaîtra enfin la paix. » C'est peut-être pas demain la veille, mais nous, on y croit. On vous embrasse. À la semaine prochaine.
Pour vivre heureux, vivons Coutier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.